cours de philosophie première par le premier Dominique Philippe, le 5 juin 2002 à Saint-Gédard.
Vous nous avez dit au dernier cours que la personne humaine la plus parfaite, ce n'est pas la mère, ce n'est pas le père, ce n'est pas l'artiste, ce n'est pas l'homme qui gouverne, ce n'est pas celui qui est le premier dans le Tour de France ou au football, mais c'est celui qui contemple Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que le philosophe peut parler de la personne chrétienne? Le philosophe peut parler de la personne chrétienne, c'est sûr. Il peut parler du saint. Il peut parler de saint Dominique. Il peut parler de saint Jean. Il peut parler des petites Thérèse sur l'enfant Jésus. Mais il en parle de l'extérieur. Donc, le secret de la sainteté lui échappe. La personne chrétienne, je ne vois pas la personne chrétienne exprès, parce que pour parler vraiment des personnes chrétiennes, il faut avoir la foi. Alors, quelqu'un qui n'a pas la foi et qui parle de la personne chrétienne peut décrire, mais ne saisit pas les principes. Il peut décrire. C'est du reste souvent qu'on voit dans la vie des saints, quand cette vie des saints est racontée par quelqu'un qui n'est pas saint, il décrit. Le mystère lui échappe. Mais alors, c'est la sainteté qui est la personne chrétienne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une personnalité chrétienne très forte. Saint Thomas d'Aquin a une personnalité chrétienne très forte. Saint Augustin a une personnalité chrétienne très grande. Alors là, vous regarderez la sainteté, et on verra au terme, donc je ne développe pas maintenant, la sainteté du contemplatif, et la sainteté de l'apôtre, et la sainteté de l'actif. Mais ici, nous nous plaçons au plan philosophique, parce que la philosophie, ce n'est pas la théologie qui vous rendra philosophe. Vous devez être philosophe avant d'être théologien. Et ça, c'est très important. Autrement, vous dégringolez dans le fidéisme. Et le fidéisme, c'est s'asseoir sur un fauteuil et ne pas accepter de lutter, travailler personnellement. C'est le grand danger, ça. Le grand danger pour le catholique, pour le théologien. Donc pour nous, le grand danger était de tomber dans le fidéisme. Vous voyez, c'est, vous soulignez exactement le danger. Celui qui contemple Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus que vous ne pensez. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sages. Mais Cicéron le disait déjà. Et j'aime bien Cicéron parce que, comme c'est en dehors, c'est un point de vue purement philosophique. Et c'est pour ça qu'il est très sceptique du suffrage universel. Point de vue politique. Il dit le suffrage universel fera que sera toujours des êtres à moitié. C'est pas un sage qui est élu au suffrage universel. Jamais. Ce n'est pas le philosophe dont on parle le plus qui est le plus philosophe. Oui, suffrage universel pour le commerce, très bien. Pour le commerce, là où on peut avoir les prix les plus avantageux, sans diminuer trop la qualité, mais en la diminuant quand même, mais qu'on s'en aperçoive surtout pas. Donc on favorise le mensonge. C'est vrai, pour que ça passe. Parce que les êtres humains s'arrêtent beaucoup plus aux manifestations qu'à la réalité. Et c'est vrai pour toute communauté, la manifestation, c'est la première chose qu'on voit. Alors, dans des communautés sérieuses, dans des communautés de philosophes, de théologiens en herbe, on devrait regarder la qualité de l'intelligence en premier lieu. Mais la plupart du temps, la qualité de l'intelligence, elle se manifeste dans la recherche de la vérité, mais on voit tout de suite les à côté, qu'on met très en lumière, et la vérité, elle est cachée. Mais Cicéron est terrible pour le suffrage universel. Il le dit avec une netteté extraordinaire. En disant, le suffrage universel fait que c'est la plupart du temps des choses médiocres qui passent avant des choses qualitatives. Et c'est vrai. Alors, il y a quand même quelque chose de bon. Si celui qui vote est intelligent, mais comme celui qui vote, c'est tout le monde, et l'intelligence politique n'est pas donnée à tout le monde, d'où, facilement, c'est toujours ce qui est le plus... Alors ça descend. Alors quand c'est descendu très bas et que ça devient quelque chose, il y a une révolution qui reprend. C'est très curieux ça. Mais alors, en philosophie, le nombre, la quantité, c'est pas ça qu'on cherche en premier lieu. Savoir que peu contemple vraiment quant à leur intelligence, le mystère de Dieu. C'est vrai, il y a très peu d'hommes. Bon, on le sait, parce que c'est difficile, parce que ça demande un long entraînement. Ça ne s'acquiert pas tout de suite du jour au lendemain. Alors, c'est rare. Et parce que c'est rare, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Et donc il faut bien distinguer la quantité et la qualité. La finalité se prend justement de ce qui est bon, ce qui dépasse. Alors, au point de vue finalité, c'est ça qu'on doit regarder. La personne ne peut se comprendre que du côté de la finalité. Donc il faut reconnaître que la sagesse philosophique est rare, que la personne philosophique est rare. C'est l'intelligence et l'amour, C'est rare. Mais ça existe. Ça n'existerait pas du tout, ce serait très ennuyeux. Mais du fait que ça a existé et que ça existe, des philosophes comme Aristote, comme Platon, comme Plotin, des philosophes comme Saint Thomas. Saint Thomas a été tout de suite un théologien, mais il y a chez lui un souci philosophique qui est juste et qui a duré toute sa vie. La théologie doit maintenir en nous la sagesse philosophique. Si notre théologie nous fait abandonner notre sagesse philosophique, très vite, le théologien redeviendra fidéiste. Très très vite. Et donc, il sera à côté. Il ne pourra plus être un vrai théologien catholique. Vous voyez ? Alors, nous avons, nous, un avantage énorme que nous devons être des théologiens. Et notre théologie réclame de nous d'être des philosophes. Nous ne serons pas de vrais théologiens si nous ne sommes pas de vrais philosophes. Nous serons peut-être des gens de l'école qui répètent, parce que leur mémoire est bonne, ce qui a été dit. Mais vrai théologien, c'est celui qui, par lui-même, découvre ce qu'il dit. Et ne s'appuie pas sur des béquilles. Si nobles que soient ces béquilles, si grandes qu'elles soient. Alors, c'est sûr, quand on n'arrive pas à saisir la sagesse philosophique, et on dit, oh, je vais être théologien, moi. C'est très mauvais. On peut dire, je n'arrive pas par moi-même à la sagesse philosophique, mais je m'aide de ceux qui ont cette sagesse. Je le reconnais et je m'en sers. Alors j'aurai toujours une théologie qui n'aura pas la vitalité et la force d'une théologie où le théologien est philosophe, parce que alors il peut vivre de cette théologie et avancer. Si il est dépendant d'un autre, il s'appuie. Donc il s'avance dans la mesure où cet autre sur lequel il s'appuie lui permet d'avancer. Il est dépendant. Or, le sage n'est pas dépendant, sauf de Dieu. Et c'est ça la grandeur de la sagesse contemplative. C'est que la grandeur de la sagesse philosophique, c'est qu'on est dépendant uniquement du Dieu vérité. On est dépendant de la réalité. On est dépendant d'aucun système. Tandis que la plupart des hommes sont dépendants de systèmes. Le système le plus commun à leur époque. Et comme ça change de mode assez vite, ils seront obligés de changer, eux aussi, de conception de sagesse. Le sage, c'est celui qui est en dépendance étroite de Dieu, puisque Dieu est celui qui l'a découvert et que tout dépend de Dieu. Il est dépendant de toutes les réalités existantes en tant qu'elles viennent de Dieu, en tant qu'elles nous expriment ce que Dieu pense, ce que Dieu aime. Le sage ne dépend que de Dieu. Il a une liberté intérieure qu'il veut, qu'il désire être total. Ne pas dépendre des modes, des conditionnements, de ce que les propagandes mettent en pleine lumière. Le sage est capable de faire la différence entre les fausses popularités et la vérité. Les fausses popularités, c'est justement les opinions des hommes. Et les hommes, la plupart du temps, vivent de ces opinions. Ils sont dépendants de ces opinions. Tandis que le sage dépend de Dieu. Et c'est un des signes assez nets, ça, pour voir si on est en face d'un sage. Quelqu'un qui, dans sa connaissance philosophique, est arrivé à atteindre l'existence de Dieu et de comprendre ce réalisme nouveau qui dépend de Dieu, mais qui nous libère de toutes les opinions humaines. On ne s'arrête pas aux opinions humaines. On n'est pas l'homme des opinions humaines. Alors, il faut maintenant voir un autre type de personne humaine. Si on n'arrive pas à atteindre l'existence de Dieu et à contempler le mystère de Dieu au plan philosophique, si on n'arrive pas à cette sagesse philosophique, on peut cependant arriver à une certaine personnalité humaine dans l'amitié. Vous voyez, ce n'est pas la prudence qui me rend sage, c'est l'amitié qui augmente ma personnalité. Parce que elle me fait atteindre une fin. La prudence, elle regarde surtout les moyens en vue de la fin. Mais c'est toujours en vue de la fin. Donc la prudence est très nécessaire pour le progrès. Si on n'est pas prudent, très vite, on sera pris par les séductions qui nous enveloppent, qui sont sur la route. Séductions intellectuelle, d'inventer une philosophie qui soit nôtre. C'est une très grande séduction, ça. Une philosophie qui soit propre à ce philosophe. Vous comprenez bien, c'est faire passer avant la vérité ce qu'on a atteint comme vérité. et c'est très dangereux. Il n'y a que l'amitié véritable, la véritable amitié, ni l'amitié sensible, ni l'amitié imaginative, mais la véritable amitié qui fait que je considère que l'ami est mon bien. Il est pour moi l'incarnation du bien. Auprès de lui, je me sens épanoui. Il y a quelque chose en moi qui se développe. Et grâce à lui, je peux m'arrêter dans la recherche de la vérité, m'arrêter d'une façon légitime, m'arrêter pas d'une façon définitive, mais m'arrêter momentanément, étant donné que la route est dure. Et que si je suis seul dans cette recherche de la vérité, très facilement, je trouverai cette recherche trop difficile. Je trouvais cette découverte de la vérité comme quelque chose qui me rend solitaire, parce que je suis entouré de personnes qui ne recherchent pas la vérité, et donc qui m'encombrent. Puisqu'elles ne recherchent pas la vérité, elles sont pour moi constamment des pièges, des fausses attractions. Et à la place d'être des hommes amis, de véritables amis, qui viennent confirmer ma recherche de vérité, le véritable ami, c'est celui qui me confirme dans cette recherche de la vérité et qui, grâce à lui, me permet d'aller beaucoup plus loin. Il ne m'arrête pas, l'ami ne m'arrête jamais dans ma recherche de la vérité, mais il est le compagnon de route. Et ensemble, on cherche la vérité. C'est très rare, hein? La véritable amitié. L'amitié qui fait que l'ami n'est pas un poids lourd à porter. Mais l'ami est quelqu'un qui m'aide à continuer ma route dans la recherche de la vérité. L'ami doit être celui qui, avec moi, recherche la vérité. Ce n'est pas celui qui m'arrête parce qu'il m'est agréable. Alors, il m'est agréable de m'arrêter auprès de lui, d'être pour moi une source qui m'aide, qui me soutient. C'est très bien ça, mais ce n'est pas l'amitié au sens absolu. Très souvent, on peut être pour beaucoup de personnes un soutien. Mais, alors, d'une certaine manière, c'est un ami. Tu me soutiens, tu m'aides. Le fait de te voir, ça me fait du bien. Ça me regonfle. Ça me permet de continuer. Ça me permet de ne pas être triste. Ça me permet de ne pas être solitaire. Mais c'est le consolateur. Le consolateur n'est pas l'ami. Celui qui m'aide, qui me soutient, c'est une partie de l'ami, mais ce n'est pas l'ami. L'ami, c'est de découvrir en l'autre mon bien, ma fin, façon totale et d'une façon réelle et partielle, je découvre dans l'ami mon bien, celui qui me permet d'être plus moi-même. C'est véritable ça, l'ami, celui qui me permet d'être plus moi-même et donc de rechercher ma fin en toute vérité, grâce à lui et avec lui et par lui. Parce que l'ami joue ce rôle d'être avec, par, en. C'est l'amour qui fait ça. L'amour réalise cette unité de recherche. On est un dans cette recherche. On a la possibilité de se reposer sur l'ami. On en a besoin, parce que c'est lourd. Il y a dans l'amitié un développement de la personne qui est non pas terminal, mais qui est réel. L'ami apporte à son ami un réel sens de son bien, une signification qui n'est pas absolue, qui n'est pas ce qui clôt, mais ce qui permet de continuer la route, ce qui permet de retrouver en soi-même confiance. Quand on est seul à rechercher la vérité, très vite on se fatigue et on se considère alors comme incapable d'aller plus loin et on s'arrête. Si on a un ami vrai, un ami vrai a saisi en nous ce désir de vérité qui nous met à part, qui manifeste ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est ça que l'ami aime. Et c'est à cela que l'ami s'accroche. Puisque grâce à mon ami, au moment où c'est particulièrement difficile, où les obstacles de la route sont particulièrement forts, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de l'ami, qui me fortifie intérieurement et qui me fait comprendre de l'intérieur que c'est normal d'avoir ce soif, ce désir de travailler avec lui, de lui demander conseil, de lui demander son aide. C'est avec lui que je travaille le mieux. C'est avec lui que je progresse le plus. Et les découvertes de mon ami m'intéressent et sont mes découvertes. L'ami met en commun avec son ami tout ce qu'il y a de positif dans sa recherche, tout ce qu'il y a de grand dans sa recherche, c'est pour son ami. Il y a donc un type particulier de personne, qui est la personne amicabilis. Amicabilis, c'est-à-dire aimable pour son ami. L'ami, comme tel, est une personne spéciale. Vous voyez, il peut très bien se faire que le contemplatif soit l'ami de telle ou telle personne. Donc, la contemplation n'exclut aucune autre amitié. Elle est une exigence spéciale. Et c'est vrai, si je suis arrivé à une certaine contemplation de Dieu, cette contemplation de Dieu a ses exigences propres de m'obliger de consacrer du temps pour la recherche de Dieu, pour la contemplation de Dieu. Ce temps, en réalité, je ne le retire pas à mon ami. Si mon ami est vraiment l'ami de ce qu'il y a de meilleur en moi, il désire que ce qu'il y a de meilleur en moi progresse, s'intensifie. Et donc, l'ami deviendra celui qui m'aide à être plus contemplatif. Et à ce point de vue-là, l'ami est un gardien merveilleux pour moi de la contemplation. Vous voyez, il y a comme une espèce de rebondissement de l'amitié du contemplatif, du philosophe, par le lien avec l'ami. Mon ami sera là pour m'aider dans des circonstances particulièrement difficiles à maintenir cette soif de la vérité. Bon, c'est très rare, il faut bien se le dire. Si la personne du contemplatif est rare, la personne de l'ami est rare aussi. D'un véritable ami. Parce que très facilement, on s'en tient un petit peu à l'extérieur. Il y a des personnes qui sont plus ou moins aimables, vous voyez, aimables, plus ou moins attirantes. La personne aimable, c'est celle qui m'attire. Elle est aimable pour moi. On n'est pas aimable pour tout le monde. On est aimable pour une catégorie de gens. Et les autres n'ont pas du tout. Ils n'ont pas saisi du tout ça. Ils n'ont vu que l'envers de l'amicabilis. Et ils s'arrêtent au défaut. C'est comme ça qu'au fond, la plupart du temps, le contemplatif est seul. Et les amitiés du contemplatif ont une qualité particulière d'amitié qui ne le rend pas aimable, attirant pour tous. Il y a une sélection naturelle qui se fait, très étonnant du reste. Et cette sélection naturelle provient tout simplement que la qualité qui attire est une qualité qui n'attire pas tout le monde. C'est une qualité qui est très forte pour ceux qui ont compris l'exigence de la contemplation, qui ont compris cet appel particulier à la contemplation. Alors, c'est là où la personnalité du contemplatif, du solitaire, peut être source de très grandes amitiés, parce que elle peut être source pour d'autres qui eux-mêmes cherchent la même exigence de contemplation et n'y arrivent pas. Ils sont plus faibles, ils ont besoin de s'appuyer. Vous voyez, ce regard philosophique sur la personne est très important parce qu'il fait comprendre constamment comment il peut y avoir des accrochages et il peut y avoir des séparations. Parce que nous sommes tous idvia, nous sommes tous en route. Personne d'entre nous ne peut dire « maintenant, moi, je suis parfait ». Et donc, la mesure de ce qu'est la personne humaine, non. La contemplation est chose si éminente que la contemplation philosophique nous met déjà dans une très grande solitude. Et elle est peu aimable, peu attirante. C'est vrai, un homme qui a lutté toute sa vie a nécessairement des points qui sont plus rudes parce qu'il a lutté. Donc, il n'est pas entièrement amicabilis. C'est normal. Il est un peu rude. Alors, on tourne autour avant de savoir comment l'ami. Il y avait à Fribourg un père hollandais dominicain très puissant. Il faisait de l'exégèse. Quand il remontait, parce que pour aller à l'université de la maison où étaient les dominicains, on devait monter. Alors il montait lentement, très lentement. Il avait toujours autour de lui quelques petits bons hommes qui le regardaient, tellement il était impressionnant dans sa démarche solennelle, très posée. Une tour qui marchait. C'était très impressionnant à voir. Ces gosses le regardaient et lui montait en pensant au cours qu'il allait donner. Il ne pensait pas du tout de regarder à droite et à gauche. Et au fond, c'est une très belle image de ce que dans notre vie, quand nous découvrons quelqu'un qui est vraiment contemplatif, au plan de vue philosophique, qui a saisi ce qu'est la contemplation humaine, on tourne autour assez longtemps avant de pouvoir être l'ami. Les amitiés trop faciles, parce que ça existe, les amitiés faciles, moi. Vous voyez, c'est, les amitiés faciles, c'est justement des personnes très, très aimables. Alors, ça attire, mais c'est pas profond. On a fait vite le tour. Tandis qu'une personne qui vraiment est contemplative, avant d'arriver à avoir l'amitié à l'égard de cette personne, on met du temps. Mais si on y tient, parce que c'est justement ce caractère un peu abrupt du contemplatif, qui toutes les choses secondaires sont secondaires et donc ne l'intéressent pas, ne l'intéresse que ce qui peut augmenter sa contemplation, ce qui lui permet d'intensifier sa contemplation. Donc, il est difficile à atteindre. Et son amitié n'est pas commode. Alors, voyez, il y aurait à distinguer, quand on voit le point de vue amitié et personne, à distinguer la véritable amitié à l'égard du contemplatif. Alors, c'est une amitié qui me permet de monter, d'atteindre quelque chose de plus grand que moi. Et ceci existe. On a des amitiés comme celle-là. Et c'est très bon, du reste, parce que ces amitiés me permettent de grandir. On a l'amitié de celui qui est arrivé à une certaine profondeur contemplative. Il peut, au point de vue rapport humain, avoir une amitié avec ceux qui cherchent mais ne sont pas arrivés. Alors, c'est l'inverse. C'est plus une amitié qui monte, c'est une amitié qui descend. Il y a une très grande souplesse dans l'amitié, parce que ce n'est pas la finalité ultime. L'amitié est nécessairement intermédiaire. C'est une finalité, et donc c'est un type de personne. Mais ce type de personne a des modalités extrêmement variées. C'est pas la même chose d'être l'ami de quelqu'un qui nous dépasse, d'être l'ami de quelqu'un qu'on aide. Et au point de vue personnalité, c'est très différent. Parce que l'amitié à l'égard de quelqu'un qui nous dépasse, et on a toujours quelqu'un qui nous dépasse, celui qui n'a jamais découvert quelqu'un qui le dépasse, c'est très grave. Ça prouve qu'il n'est pas très grand. Il s'est stabilisé à moitié. Et il restera toujours à moitié. Alors celui qui est ami de quelqu'un de plus grand que lui, son amitié à son égard le grandit. Et il s'appuie sur lui. Pas nécessairement qu'il vit avec lui, mais il l'aime. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour le voir. Alors, cette amitié l'a grandi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est partiellement vrai dans ce genre d'amitié. Et ce genre d'amitié permet à ma personnalité de s'agrandir. Et il y a un autre type d'amitié qui est vraiment l'ami à l'égard de quelqu'un qui m'est semblable. On est heureux de se retrouver. On a une certaine égalité, à peu près les mêmes soucis, les mêmes difficultés, et on s'aime. Et on est heureux de pouvoir ensemble, communion, communiquer. Et c'est dans la koinonia, donc dans la communication intérieure, que se noue cette amitié. Cette amitié ne nous fait pas tellement grandir, mais elle nous permet de nous reposer. Elle permet d'être plus soi-même. Il y a donc un certain épanouissement qui se fait et qui est bon. Et puis, il y a l'amitié à l'égard de ceux qui sont inférieurs à nous, et nettement inférieurs à nous, de ceux qui reçoivent tout de nous-mêmes, de ceux à qui on donne tout. Alors, cette amitié a un caractère paternel ou maternel. Elle prend cette physionomie-là particulière et on sait que cet être est particulièrement fragile et qu'il a besoin de nous et qu'on est là auprès de lui pour être un ami, un véritable ami, pour lui permettre d'exercer justement cette attitude de celui qui reçoit tout d'un autre. Et qui a besoin de cet autre pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être plus lui-même. Ce type d'amitié est particulier. Vous voyez, on a des types d'amitié qui sont très différents les uns des autres, et donc qui forment une personnalité très différente. Quand on est habitué à exercer l'amitié vis-à-vis de tous ceux qui dépendent de nous, on doit chercher à ne pas les accaparer pour qu'ils puissent grandir. Et ce genre d'amitié réclame de notre part un don constant. Quand c'est l'amitié entre semblables, entre égaux, c'est une amitié toute différente. Mais toujours, elle joue sur la personne. Et il y a une personnalité différente. Donc, on voit combien l'amitié permet l'épanouissement profond, toujours dans l'amour, un épanouissement à l'égard de ceux qui sont auprès de nous, autour de nous, et qu'on doit être pour eux des points de repère, des soutiens. Puis enfin, l'autre type d'amitié. Je crois que c'est très important. L'amitié joue un rôle extrêmement grand dans notre vie. Et plus la famille a moins de poids, plus la société est nouée par des liens de justice très forts, plus l'amitié joue un rôle important. Au fond, je crois que dans des sociétés comme les nôtres, qui sont rudes, parce qu'elles sont toujours un peu tyranniques, la tyrannie d'efficacité, on retrouve aussi bien du côté intellectuel que du côté ordinaire, économique, on voit très bien qu'il y a une très grande tyrannie. Qu'est-ce qui peut permettre d'échapper à cette tyrannie? C'est l'amitié. Des sociétés comme la nôtre, où il y a une corruption terrible, tant du côté commercial que du côté affectif, on assiste à cette corruption. L'amitié nous permet de dépasser cette corruption et de maintenir en nous un sens de la personne. Et plus il est difficile de trouver une vraie coopération avec les hommes avec qui nous vivons, plus il est nécessaire pour nous de voir que l'amitié va permettre d'être sauvé, de sauver ce qu'il y a de noble en nous, de grand en nous.